France Musique. Bonsoir. Le 30 décembre dernier, nous quittait à l'âge de 87 ans Philippe Harry Blachette, violoniste, chef d'orchestre et fondateur de l'ensemble Sillage. Le compositeur et chef d'orchestre Gonçalo Bustos, qui est son successeur à la tête de cet ensemble de musique contemporaine, est à notre micro ce soir pour lui rendre hommage. Cap sur le Finistère dans ce carrefour de la création avec toute l'actualité de l'ensemble Sillage qui prépare en ce mois de mars 2024 la 10e année de son festival électrocution à Brest. Soyez les bienvenus. Everyone that saw her said the doors a little video looked a bit. Valérie Philippin et Elisabeth Lagnon, en septembre 1993, ici au studio 104 de la Maison de la Radio, dans un extrait de Anna Livia Plurabelle, une œuvre d'après James Joyce, dont la musique est signée André Auder. Voilà un des tout premiers projets artistiques portés par Philippe Harry Blachette et l'ensemble Sillage. Philippe Harry Blachette, qui n'était pas à la direction de son ensemble dans cette production, direction confiée à Patrice Caratini, mais qui tenait la partie de violon. Merci d'avoir apporté ce disque et cette mémoire jusqu'à nous ce soir, Gonçalo Bustos, et bienvenue dans ce carrefour de la création.
Bonsoir Corinne.
Alors cette production de Anna Livia Plurabelle avait marqué le monde de la création au début des années 1990 parce que c'était la première fois qu'une œuvre de jazz était réenregistrée près d'une trentaine d'années après sa création en 1966 et cette œuvre est aussi, je crois, le projet fondateur de l'ensemble Sillage, non ?
Oui, exactement. Il y a un cycle de 30 ans, figurez-vous, parce que 30 ans après, donc très récemment, je découvre cet enregistrement, justement après le décès de Philippe Harry Blachette, lors de sa cérémonie. La musique qui sonnait, c'était celle-là. Et ça m'avait énormément touché. Aller d'abord chercher qu'est-ce que c'était, cet beau projet. Et ensuite découvrir que c'était le premier projet enregistré par l'ensemble. Pour moi, il est d'une actualité majeure. Parce qu'il représente la liberté que Philippe avait et que j'essaie aussi d'insouffler à l'ensemble, alors de programmer une liberté qui va au-delà de la grammaire musicale. C'est d'abord et avant tout le message de la communication. Et ce projet, je pense, que porte fortement ça.
Alors donc, première audition publique, 26 ans après sa composition par André Auder, c'était en mars 1992, au Quartz de Brest, par l'ensemble qui ne s'appelait pas encore l'ensemble Sillage, mais l'ensemble Cassiopée, je crois.
Exactement. Lors de la création, c'était ça, mais lors de l'enregistrement, c'était déjà l'ensemble Sillage. Pour ça, on peut bien dire que c'est le premier enregistrement de l'ensemble.
Philippe Paris Blachette nous a quittés il y a quelques semaines, donc il avait fondé cet ensemble en 92. Vous êtes le directeur artistique, vous, depuis 2020. Gonzalo Bustos, et quel hommage souhaitez-vous lui rendre aujourd'hui à ce grand musicien si important pour la vie musicale brestoise, certes, mais également pour ses projets d'envergure qui avaient rejailli au plan national et même international?
Oui, absolument. Autour de son décès, j'ai pu voir comme une sorte de photo, d'instantané, la répercussion nationale qu'il y avait, parce que les messages commençaient à venir de différents coins du pays. Et donc, c'est comme revivre, en quelque sorte, l'envergure de tout ce qu'il a fait, Philippe, pendant des longues années.
Écoutez, on va faire un petit retour aux sources. Je vous propose d'écouter Philippe Paris Blachette raconter justement son installation à Brest et les débuts de l'ensemble Sillage. C'était au micro de Cécile Gilly sur France Culture en avril 2006, donc 10 ans après l'installation de l'ensemble à Brest.
Alors Philippe Paris Blachette, bonsoir, bienvenue. Vous êtes installé en Bretagne avec, donc, je disais, l'ensemble Sillage, et votre activité se multiplie dans de grandes directions. Est-ce qu'on peut déjà parler peut-être du paysage musical à Brest, en Bretagne, et comment l'ensemble Sillage rayonne déjà dans cette région avant de parler de toute la France?
Oui, bien sûr, c'est important de resituer le contexte. L'ensemble s'est installé là-bas, d'ailleurs en même temps que moi, j'ai été directeur de l'École nationale de musique, de danse et d'art dramatique, et donc la ville m'a dit que ça les intéressait d'aider l'ensemble Sillage pour faire donc une action sur la ville. Et par la suite, la DRAC Bretagne nous a aussi aidés, c'est-à-dire qu'on devait faire une action non seulement sur la ville de Brest, mais aussi sur la région Bretagne. Oui. Donc, il n'y avait rien, vous savez, à cette époque. On s'est installé en 1996 avec l'ensemble là-bas. Il n'y avait absolument rien. Et donc, le Quartz National de Brest a été intéressé de nous associer à leur programmation. Et donc, ça a bien fait partir les choses, parce que, quand même, on a un appui...
Oui, vous aviez des appuis des scènes nationales, et vous étiez bien accueillis.
Voilà. Donc, en ce qui concerne la scène nationale, on fait 3 projets par an. Alors, c'est sous forme de co-réalisation, de co-production. Et puis, moi, je travaille beaucoup avec la ville de Brest. Alors, disons, sur une partie que les ensembles contemporains peut-être un petit peu négligent, c'est-à-dire les centres sociaux, disons, tous les organismes qui sont à caractère, je dirais, social et qui programment des manifestations culturelles. Donc, évidemment, là, je fais des concerts, plutôt des concerts à lecture, des présentations d'œuvres, etc., etc.
Choses plus légères, oui.
Voilà. Et puis, la ville de Brest, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de lieux qui sont assez étonnants. Il y a un cabaret qui s'appelle le Vauban et j'adore faire des concerts dans ce cabaret parce que c'est un endroit intact des années 1950, parce que vous savez que Brest a été complètement reconstruit après la guerre. Et moi, j'adore faire des concerts de musique électronique, instruments électroniques dans ce lieu, ou même des soirées un peu cabaret. On se lance un petit peu. On vient de faire la semaine dernière un cabaret berlinois des années 20-30.
Oui, vous êtes très éclectique.
Oui, bien sûr. Et puis, puisqu'on joue la diversité, autant le faire d'une manière intelligente, j'espère, en tous les cas.
Alors, cet ensemble Sillage, il est constitué de musiciens qui vivent sur place, qui travaillent sur place ou...
Alors, ça c'est un tout petit problème, vous avez raison de poser la question, parce que malheureusement, je n'ai pas tous les musiciens sur place, c'est-à-dire à Brest ou même dans la région Bretagne. Donc, je fais un mixte des deux, c'est-à-dire des musiciens qui sont parisiens, à peu près la moitié-moitié, et des musiciens qui sont brestois, ou qui vivent dans la région. Hein. Donc c'est un tout petit peu compliqué pour les répétitions, parce que là je suis obligé de choisir des lieux, soit Paris, soit la Bretagne, mais par exemple les musiciens parisiens sont obligés de venir plusieurs jours avant.
Oui,
en Bretagne, pour répéter. Voilà, alors c'est un petit peu compliqué, mais je fais ça parce que je voudrais garder une qualité aussi nationale. C'est-à-dire, bon, la Bretagne, c'est formidable, mais vous savez, si on joue pas ailleurs qu'en Bretagne, on ne sera jamais considéré.
Oui, mais c'est pas votre cas d'ailleurs.
Non, mais si vous voulez, il faut ça, voilà, je fais très attention à ça pour qu'on puisse jouer aussi au plan national, voire international, parce qu'on est engagé à Rome l'année prochaine, par exemple. J'essaye d'aller un petit peu plus loin que la région Bretagne, ce qui est normal aussi, et ce qui veut dire aussi que la région Bretagne nous considérera beaucoup plus.
Des oiseaux imaginés par Jean-Luc Hervé en 2003, incarnés par trois clarinettes, Nicolas Baldérou, Pierre Dutrieux, Véronique Fèvre, et deux sopranos, Valérie Philippin et Donatienne Michel Dansac. Nous écoutions l'enregistrement réalisé sous la direction de Philippe-Harry Blachette dans un disque monographique que l'ensemble Sillage avait consacré en 2005 au compositeur français Jean-Luc Hervé. Alors Philippe-Harry Blachette le rappelait dans cette archivina que nous venons d'écouter, il était chef d'établissement. Il a d'abord dirigé l'école de musique de Romainville dans les années 70 jusqu'à 95, au moins deux décennies, et puis ensuite le conservatoire de Brest de 1995 à 2002. Mais vous, Gonzalo Bustos, que pouvez-vous nous dire de Philippe-Harry Blachette, directeur artistique de l'ensemble?
Oui, effectivement, j'ai connu Philippe en tant que directeur artistique. Moi, j'étais invité des fois pour diriger, des fois pour composer. Et j'ai découvert un homme d'une vision rare, un homme qui a su voir 30 ans avant l'importance d'aller à Brest et la valeur de s'engager dans un territoire de façon totale. Il lui disait dans cet extrait qu'il faisait des concerts lecture. C'était partie de l'ADN et a marqué énormément toutes les actions culturelles, comme on dit, la médiation dans le sens large, de chacun des productions, qui fait que on en profite aujourd'hui. 30 ans après, on a une salle, la scène nationale Le Quartz, remplie à chaque fois. On continue la médiation parce qu'on pense aussi qu'est-ce qui sera les prochains 30 ans.
Une sorte de formation, d'une éducation du public.
Absolument. Bah, j'ai découvert des personnalités qui sont venues après, journalistes, des radios, etc., qui m'ont dit j'ai découvert la musique des créations grâce au monsieur Harry Blachette, etc. Donc, ça a formé, direct et indirectement, des générations et des générations. Et aujourd'hui, on prend le fruit de tout ça.
Alors, il faut aussi rappeler que le début de la carrière de Philippe-Harry Blachette est celle d'un violoniste, discipline dans laquelle il avait reçu un premier prix au Conservatoire de Paris. Il est d'abord professeur de violon, d'ailleurs, de musique de chambre, également au Conservatoire de Pantin. Et puis, en tant que violoniste, lui-même, il participait à cette époque-là, au début des années 1980, aux concerts de musique contemporaine, à l'ensemble 2E2M, par exemple, qu'avait fondé Paul Méphadou. piano. Et dans sa trajectoire de musicien, Philippe-Harry Blachette, en tant que violoniste, lui, était extrêmement engagé dans le domaine de la musique de création, au service des compositeurs. Je vous propose d'écouter une deuxième archive des Fonds de l'INA, où l'on entend Philippe-Harry Blachette au violon travailler avec le compositeur suisse Thomas Kessler, pionnier de la composition avec synthétiseur. Il est question dans cet extrait de Violon Control, une pièce pour violon et synthétiseur de 1978.
Le violoniste produit un certain nombre d'harmoniques ou de sons un peu isolés comme ça qui déclenchent une sorte de scintillement dans le synthétiseur qui est assez extraordinaire. Comment est-ce possible techniquement?
Oui, c'est aussi le résultat du modulateur anneau qui, dans certains cas, produit des fréquences très très riches, harmoniques et non harmoniques. Et ça donne un résultat quelquefois jusqu'au bruit. Ça dépend du registre dans lequel le modulateur anneau est traité par l'oscillateur. Et ce registre est contrôlé par une pédale du violoniste lui-même.
Si je regarde la partition Thomas Kessler, je vois que l'écriture proprement dite du violon est assez traditionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des grands traits. C'est un peu une technique à la Paganini que vous avez écrite pour le violon lui-même.
Je voulais éviter tout qui est contemporain. Ça veut dire que le violoniste joue derrière le chevalet, ou avec des choses spéciales qu'on trouve dans la musique contemporaine. Je voulais éviter parce que je me disais tous ces effets de timbre, je peux les produire avec le synthétiseur. Donc je veux me limiter au jeu traditionnel, ce qui pose aussi des problèmes de la composition. Quelquefois, j'ai remarqué que ça sonne un peu le Paganini, mais en même temps, j'aimais pas mal ça. Ça donne un peu de l'ironie dans la pièce. Il y a quelques passages que j'ai fait exprès, un peu le violoniste virtuose qui perd le contrôle par un synthétiseur, qui le dirige vers un autre chemin. Si vous écoutez la pièce, vous ne voyez pas l'installation, mais j'ai essayé de la faire le plus simple possible. Le violoniste doit être assis sur une chaise. Il a le synthétiseur à droite de lui, très près, parce que c'est surtout avec la main droite. Malgré qu'il tient l'archet, il doit avec un doigt libre presser un pin dans le synthétiseur. Les trois pédales pour les pieds sont devant lui. En principe, c'est pas une grande installation, ce qui permet qu'on peut le faire dans des concerts avec d'autres pièces. Demander, Philippe, qu'est-ce qui était ton expérience avec cette pièce? Est-ce que il y avait des moments où tu te sentais bien, quand, malgré ces pédales et toutes ces manipulations?
Ben, c'est-à-dire que bon, le travail de l'interprète au niveau de cette pièce est assez spécial. Bon, bien sûr, comme dans toutes les œuvres, il faut d'abord la travailler techniquement. Une fois que violonistiquement c'est prêt, il faut absolument organiser un travail avec les pédales à vide, c'est-à-dire sans le son, sans le synthétiseur. Puisque le jeu des pédales est noté extrêmement précisément sur la partition, il faut ouvrir la pédale de voltage contrôle, il faut fermer la pédale de volume, tout ça c'est très bien indiqué sur la partition. Donc en jouant, on travaille les réflexes au niveau des pieds, parce que oui. C'est ça la difficulté.
Mais est-ce que tu serais content si les pédales seraient jouées par un autre et pas par toi?
Non, ça serait pas satisfaisant parce que, je veux dire, c'est quand même une sorte de délectation, d'appuyer sur une pédale, de la contrôler et en même temps de contrôler le son du synthétiseur. Car si tu appuies plus ou moins sur la pédale, ce qui sortira du synthétiseur sera complètement différent. Et c'est justement ce travail de contrôle du synthétiseur qui est intéressant pour un violoniste aussi.
Je suis très heureux d'entendre ça parce que c'était mon intention de donner cette responsabilité au violoniste.
Philippe-Harry Blachette au violon et en discussion avec le compositeur suisse Thomas Kessler en décembre 1983 au sujet de Violon Contrôle, une œuvre que Philippe-Harry Blachette avait jouée intégralement sur les ondes de France Culture à l'occasion d'une émission produite par lui. En effet, véritable passeur et avide de transmettre en toutes circonstances, Philippe-Harry Blachette a également réalisé un très beau parcours dans les médias français où il a défendu haut et fort les musiques de création. Tout d'abord pour la télévision, où il a produit 80 émissions musicales au début des années 1970 dans des émissions comme La Rose des Vents ou La Musique et nous. Et puis ensuite à Radio France, sur France Culture, pendant une décennie, de 1975 à 1985, une antenne dont il devient le directeur du programme musical de 1985 à 1988. La générosité de Philippe-Harry Blachette et son envie de transmettre sa passion étaient communiquées. Et il a ainsi su fédérer autour de la musique contemporaine à Brest et au niveau national des musiciens, des musiciennes et tout un public. On l'écoute encore un peu ce soir au violon pour refermer cet hommage à nouveau dans la musique d'André Oder.
A little. All right. She died that low.
Didn't you spot her in her window? Warming up on an ivory chair with a music before her. Oh, can you form letters? Pretending to read a reader on a fiddle. Without abandon.
Sure, she can't win a deal without abandon.
Sure, she can't.
En écoutant Philippe
Gonzalo Bustos
parler et jouer, qui n'ai pas eu la chance de le faire, de l'écouter en direct, parce que les dernières années, il ne jouait plus. Mais je revois l'homme séducteur qu'il était, autant avec le son qu'avec son action. Et moi, j'apprends de ça. Je pense qu'un directeur artistique qui guide un projet doit pouvoir séduire autant son équipe comme le public, pour pouvoir l'offrir de la nouveauté, le défi de l'inconnu, etc.
Il continue à vous inspirer absolument. Chaque jour. Ouais. Gonzalo Bustos, vous êtes argentin et lorsque vous arrivez à la tête de l'ensemble Sillage, à la succession donc de Philippe-Harry Blachette à Brest, vous avez 37 ans. Comment est-ce que vous entrez en contact avec ces musiciens et ces musiciennes, avec cet ensemble?
Quelques années avant, Philippe m'avait invité à diriger l'ensemble, à composer aussi. Donc j'avais déjà une relation avec certains de ces musiciens. Et ensuite, en 2018, Philippe me propose, je pense qu'il, à sa façon, il a étudié des options. Hein. Il y a après en 18, Il a fini pour me proposer ça et pour moi c'était une belle responsabilité et un honneur à suivre dans cette aventure. 2019, c'était ce qu'on aurait appelé une transition avec tous les deux, mais moi je pense, et je pense que c'est normal, je le dirais, c'est une transition pour lui, plus qu'une transition avec moi. On a un dialogue superbe, mais c'est une transition pour lui, c'est normal parce que 30 ans à la tête d'un projet, il fallait son temps à dire au revoir. Et moi, j'accompagnais ce temps pour lui. Et c'était plus que mérité, pas besoin de le dire. Et en revanche, en 2020, 1er janvier 2020, c'était la prise de poste, on peut dire comme ça. À partir de ce moment-là, il a eu un acte de confiance totale et pleine.
Alors vous, à la tête de l'ensemble Sillage, est-ce que vous continuez certaines des directions qu'avait insufflé Philippe-Harry Blachette ou vous faites des changements radicaux ? Ce n'est pas la même génération, pas la même culture non plus.
Effectivement, il y a des changements. Il y a des changements aussi des sociétés. Il y a un temps qui est différent. Et donc, des nouveaux défis. Et avec ça, il faut, je pense, être actif, proactif sur cet nouveau temps qui nous arrive. En revanche, il y a une chose que je continuais. C'était le capital humain. C'est la qualité artistique et humaine de cette équipe et d'un niveau tellement grand que c'est une évidence, c'était même facile à dire, il fallait continuer ça. Ça, c'est la grande continuité. Et après, il y a un grand développement sur la typologie de projet. Et cette question m'a amené à travailler de plus en plus avec les autres arts. La musique est au cœur de projet, mais il y a eu toujours, depuis mon arrivée, des dialogues croisés avec des metteurs et metteuses en scène, avec des vidéastes, avec des poètes, avec tout autre corps de métier qui vient travailler avec nous, de le départ de la production jusqu'à la fin, pour pousser la magie de la scène.
Thank you.
sans le terme, pianiste de l'ensemble Sillage, magnifique interprète de la musique de Martin Matalon. Nous écoutions un extrait de la trace numéro 13 pour piano électronique qui se trouve dans un disque monographique consacré par les musiciens et musiciennes de l'ensemble Sillage aux œuvres de Martin Matalon. C'est votre projet discographique le plus récent, Gonzalo Bustos, et vous restez fidèle donc aux travaux de Martin Matalon, dont la musique est jouée par l'ensemble Sillage depuis plusieurs décennies et dont vous tissez comme ça des liens de fidélisation avec ce compositeur et peut-être d'autres.
Ouais. Bah, tout d'abord, si vous me permettez, Corinne, là, ça fait exactement une belle transition car c'est Philippe Arry-Blachette qui, en 2019, a commencé cet enregistrement et on en a pu le finir en 2023. Donc, c'est vraiment...
Ah oui, là, il y a vraiment une suite
la lettre
du projet.
De passage, oui, on va oui. dire. Ensuite, sur Vincent Lederme, il ne le sait pas, mais je le dirai maintenant dans l'émission. Et pour moi, c'est le mime Marcel Marceau. Quand il joue, c'est extraordinaire. Donc, merci Philippe d'avoir engagé un pianiste comme Vincent.
Oui, très belle incarnation. Il porte très, très haut cette œuvre, n'est-ce pas?
Oui, c'est tout à fait. Et cette œuvre, alors, continuité, fidélité, face à des compositeurs comme Martin Matalon, c'est une évidence. Martin Matalon, pour celui qui a écouté une de ses pièces, quand il écoutera la deuxième, il va reconnaître le parfum de ce compositeur. Et ça, c'est une caractéristique que quelques-uns, Martin Matalon aujourd'hui, l'a ça. Et pour d'autres valeurs, Jean-Luc Hervé, par exemple, depuis longtemps, il se pose la question des concerts. Il a pensé les installations autrement. Il n'est pas à l'écologie, à la mode. Il a ça, mais il y a depuis longtemps. Depuis le départ.
L'extérieur, intérieur-extérieur, c'est une de ces problématiques chères.
Oui, et festival prochain, on a une nouvelle création de Jean-Luc Hervé.
Alors, il y a ces fidélités, mais vous avez aussi introduit de grandes nouveautés depuis votre arrivée, Gonzalo Bustos, puisque vous êtes extrêmement fidèle aux femmes compositrices. Depuis 2020, elles ne cessent d'être représentées dans votre ensemble, et c'est quelque chose d'important pour vous.
Oui, je vais être très sincère. Probablement au tout début... Je sentais qu'il fallait le faire. D'un côté, c'était naturel parce que dans ma formation, et probablement la génération qui le précède un peu moins, mais ma génération, on était autant compositrices que compositeurs. Donc c'était normal que dans mon entourage, j'avais aussi des compositrices. Mais à l'heure de programmer, voilà, c'était une question qui était sur la table, non? Quelques années après, c'est différent la question pour moi. Quelques années après, sûrement à force de chercher, à force d'écouter, probablement, et je ne le cache pas, plus de compositrices que de compositeurs, en moyen, j'ai trouvé des artistes qui vraiment touchent mon cœur et je pense que touchent aussi le cœur des auditeurs assez large. Et c'est comme ça que j'ai découvert une compositrice parmi d'autres que je n'ai pas découvert, mais que je peux programmer aujourd'hui. Mais j'ai découvert une compositrice qui n'est pas jouée en France et qui a une très belle carrière à l'international, mais qui n'est pas jouée en France, qui s'appelle Raquel García Tomás. Et une compositrice qui est, je dirais, libre de tout devoir faire. Et on a nommé Raquel, compositrice associée, qui a permis de jouer plusieurs pièces et pendant longtemps et pour les prochaines années, pour pouvoir comprendre fur et à mesure son idée musicale. En la musique contemporaine, on a souvent le one shot, vous savez. Et là, il nous faut du slow, comme on dit aujourd'hui. Il nous faut du temps pour dialoguer, pour comprendre. Pour générer cet automatisme, dire « Ok, je sais qu'est-ce que l'autre pense. » Et pour ça, il nous faut du temps.
Alors, si je vous entends bien, Gonzalo Bustos, vous êtes en train de nous dire qu'au départ, vous répondiez à une sorte d'injonction de rééquilibrage entre les compositeurs et compositrices, mais que peu à peu, vous avez fait des découvertes et que ce rééquilibrage, cette parité, s'est transformé en un autre débat esthétique.
Moi, je pense qu'il y a un phénomène intéressant, en tout cas pour l'ensemble Sillage, et je le dis très, très ouvertement, c'est que au vu du niveau des compositrices qui en est en train de jouer, des hauts niveaux, et je dis Raquel García Tomás, mais on a un portrait d'Ariane Alsina qui se joue à Paris, à Brest et aussi à Festival Mixtour à Barcelone. On a Farnaz Modarès-Ifar qui en a fait déjà un concert en décembre et on en prépare un autre pour la fin de l'année. Le niveau est tellement haut que moi, en tant que compositeur homme, pour être joué, bah, il va falloir que je me réveille. Hein. Pour être aussi sensible à notre temps, aussi personnel, aussi libre. J'aime bien cette tension qui se génère aujourd'hui. Qu'est-ce que va donner dans les prochaines années? Je ne sais pas, mais j'ai hâte de voir. Mmh.
Tiempo Suspedido, Estudio Sonomecanico numéro 1, une œuvre composée par Raquel Garcia Thomas en 2018, une musique qui accompagne une création vidéo que nous avons placée sur la page internet de ce Carrefour de la création consacré à l'ensemble Sillage ce soir sur France Musique avec au pupitre de véritables acteurs de la musique contemporaine en France. Et j'aimerais les citer, Sophie Day à la flûte, Jean-Marc Fessard à la clarinette, Hélène Colombotti aux percussions, Vincent Le Terme au piano, Léo Beltoise, violon, Ingrid Schönlaub au violoncelle, Gilles Deliège, altiste, et puis Stéphane Sordet au saxophone, selon les projets, bien sûr. L'actualité de l'ensemble Sillage, Gonzalo Bustos, c'est la 10e année du festival Électrocution que vous programmez à Brest et qui va se dérouler en plusieurs lieux dans cette ville, cette semaine, du 28 au 30 mars.
Ça se déploie dans toute la ville. L'ouverture du festival, c'est au Centre d'Art Passarelle, le 28. Le 29, c'est à la scène de musique actuelle La Carène. Et le 30, au Quartz, à la scène nationale. Mais aussi, on fait un concert à l'Auditorium du Conservatoire de Brest et à la médiathèque du Capucin. Et comme on s'amuse bien avec tout ça à Brest, on va investir pas mal l'espace public. La journée, on fait une installation dans différents coins de la ville, de façon gratuite, pour que les gens puissent découvrir de façon inattendue et la musique des créations.
Donc, création, il y en aura 17 œuvres nouvelles, 17 rendez-vous, 17 compositeurs et compositrices, et aussi 17 partenaires, 40 artistes qui viennent de tous les coins de France et d'Europe.
Oui, et de l'Amérique aussi. On a des invités des États-Unis, et le compositeur Edmund Campion et le chef David Miles. Et on a un ensemble suisse extraordinaire, porté par quatre musiciennes et créatrices, parce qu'ils composent énormément, qui s'appelle Batida. Et c'est l'ensemble à l'honneur qui va dialoguer avec l'ensemble Sillage, bien sûr, mais qui on est heureux d'accueillir.
Alors, il y a deux grands projets. Il y a le projet Digita et puis le projet Kilo Girls. Alors, j'avoue que j'étais très attirée par ce projet Kilo Girls. Il s'agit de quoi?
Alors, Kilo Girls, ça va être un projet croisé entre Batida et l'ensemble Sillage. Kilo Girls, c'est une unité de mesure qui est dans les années 40. Ils ont inventé ce terme pour nommer les 1000 heures de travail d'une femme qui faisait des calculs principalement mathématiques. Donc, c'est une unité de mesure. À partir de cette idée, les femmes de Batida, ils ont créé un projet. Nous, on va le reprendre. Ils l'ont créé avec Contrechamp. Et nous, on va le faire pour la première fois en France. À partir de, voilà, toute une façon, une procédure de composer à travers des codes. Et même une partie du processus, l'ont fait en faisant des tweets par Twitter avec des gens sur le net. Donc, une procédure très originale qui va réunir les deux ensemble.
Alors, vous avez évoqué le conservatoire, il y a aussi des jeunes qui sont impliqués dans ce projet de festival cette année.
De multiples façons. On a des jeunes compositeurs, compositrices qui vont jouer. Et aussi, on fait un projet pour les jeunes. Donc, pour ça, on fait un auditorium qui est déjà plein. On est heureux de ça. Il y a presque 500 enfants qui vont venir voir un ciné-concert de Chaplin et Facundo Lampard qui a créé ce nouveau ciné-concert. Donc voilà, ça c'est un nouveau défi aussi pour l'ensemble. On est habitué à créer avec les enfants et là le défi c'est créer pour eux. Le défi est haut hein, parce que là les jurys d'enfants, la barre est très, ils sont très exigeants. Encore une fois, pour revenir, je fais écho à Philippe mais je la ramène à l'actualité, être en Bretagne, malgré la situation qu'on entend bien et que c'est une réalité nationale, on est bien accueillis en Bretagne. On a la ville de Brest, le Quartz, comme fort soutien parmi les autres scènes. Vous voyez, jouer dans une scène de musique actuelle, jouer dans un centre d'art, le conservatoire, etc. La région, le ministère région Bretagne nous soutient énormément. Les collaborations sont multiples, on en parlera avec l'Opéra de Rennes, bref. Bretagne, je suis heureux de devenir à petite échelle un petit Breton.
Un extrait de votre musique, Gonzalo Bustos, puisque vous êtes compositeur. Il s'agit d'un trio pour violon, alto et piano, 8 Laps, une œuvre de 2019, interprétée par les musiciens du jeune ensemble Regard, ensemble que nous avions d'ailleurs reçu dans le Carrefour de la Création. Est-ce que les œuvres que vous composez, vous les soumettez systématiquement aux musiciens de votre ensemble, l'ensemble Sillage, celui que vous dirigez, ou bien est-ce que ces œuvres sont autonomes, si je puis dire? Quelle est l'articulation entre le directeur artistique et le compositeur que vous êtes?
Alors, en tant que compositeur, au moment de programmer, moi je le pense comme s'il s'agit d'une composition aussi, un spectacle, même oui. S'il n'y a pas une musique à moi. Et pour vous répondre, je dirais que un rythme de tous les 2 ans, 3 ans, faire un gros projet pour l'ensemble ou un projet de chambre, c'est bien. Mais signer tout le temps sur le programme de l'ensemble, je ne le ferai pas. Pour plusieurs raisons. Une, que la musique, c'est une énergie, doit passer à différents ensembles. Et ça, c'est bénéficieux pour tous. Deux, parce que ce n'est pas mon ensemble. Je guide l'ensemble. Pour moi, c'est différent. Je suis le leadership, comme on dit, de l'ensemble pour le conduire ailleurs, mais ça ne m'appartient pas comme un objet privé. Et notamment, je trouve qu'il y a une responsabilité publique des ensembles qui sont soutenus par le public, que ce soit un carrefour des créations, justement.
Alors donc, on va prendre le temps ce soir un peu de parler de votre musique en tant que compositeur, même si cela ne touche pas directement l'ensemble Sillage. Que venons-nous d'entendre ici à l'instant?
Alors, With Labs, c'est une pièce qui était juste après d'un projet symphonique que j'avais fait pour la philharmonie de Hastings au sud de l'Angleterre. Donc c'était un gros projet. Et donc j'ai dû venir sur la musique des chambres. J'avais besoin de ça. Et ça tombait bien une commande de l'ensemble Regard qui m'a fait cette commande pour un trio, violon, alto et piano. Et dans cette repli, on va dire, de détails, je suis allé chercher un souvenir d'enfance qui est très lié à la musique aussi, qui était la maison de mes grands-parents. Et si vous avez entendu, c'est une sorte de polyrythmie,
de
mécanique. Et à l'époque, ouais, mes grands-parents, j'ai appris la musique avec eux. Mon grand-père jouait le bandoneon. Au fond de la cuisine, il y avait le couloir. Et au fond, il y avait ces typiques horloges aux pendules qui faisaient le clic-clac. On entendait sa mécanique. Mais comme dans ces maisons, il n'y avait pas que ça. Il y avait d'autres horloges, le réveil. Et tout ça sonnait en même temps, à différents rythmes. Et en quelque sorte, tout était dans une sorte d'harmonie. Hein. Tout ce polyrythmique était cohérent dans cette maison. Une maison silencieuse, vous voyez, la télé, on l'allumait pas. Et la maison des grands-parents. Hein. Et je crois que cette pièce, c'était ça. C'est ce souvenir d'horloges qui sont superposées et qui peuvent vivre ensemble en harmonie.
Alors, on va rester en polyrythmie, mais on change d'heure et on passe au grand orchestre. Voici un extrait de Las Hadas. Extraite de Las Hadas, une œuvre pour orchestre symphonique inspirée des villes invisibles d'Italo Calvino. Ici, interprétée par l'Orchestre symphonique de la Haute École de musique de Genève sous la direction de Pierre Bleuze, une captation de 2018. On a la chance d'accueillir le compositeur en studio ce soir et donc de pouvoir l'entendre parler de sa musique aussi. Gonzalo Bustos, ces deux extraits que nous venons d'entendre de vos travaux ont un point commun, la grande vitalité, la grande énergie de votre musique et puis votre intérêt pour la dimension rythmique que vous évoquiez à l'instant. C'est un paramètre de l'écriture premier chez vous?
Probablement. J'ai lu dans un bouquin il y a 25 ans, on était jeune.
Je rappelle que vous avez 40 ans.
Ouais, je suis jeune alors. qui disait tout est rythme. Tout est rythme. Parce que même la matière qu'on croit qui est solide, figée, en fait, il est mouvement. Des micro-mouvements. Probablement, c'est ça. Des un point de vue plus philosophique ou abstrait ou physique. Probablement, c'est issu d'où je viens. L'Amérique latine, l'Argentine, probablement aussi. Je pense que si c'est le cas, la deuxième, ce n'est pas d'un point de vue, on va dire, nationaliste. C'était une autre époque. Mais plutôt d'un point de vue des couleurs, de la dynamique des choses. Vous voyez, les choses là-bas bougent beaucoup. Et les couleurs sont fortes. Les contrastes, de tout point de vue social, économique et culturel, sont aussi forts. Et donc peut-être il y a un rythme vital qui vient de là.
En tout cas, qu'on perçoit très bien à l'écoute de vos œuvres. Quelles sont à présent vos grandes orientations dans votre composition et puis aussi pour l'ensemble sillage?
Alors, en ce moment, encore une fois peut-être le rythme, mais je suis en train de composer un projet qui a la forme d'un défilé de mode pour lequel j'ai fait appel à une chorégraphe avec qui j'ai déjà collaboré, Emilia Guidicelli, un DJ, Vincent Malassis. Il y a un metteur en scène, Charlie Windelsmith. Donc c'est un projet pour lequel j'ai dû apprendre et étudier profondément. Il y avait beaucoup de respect. Une musique qui est considéré peut-être par l'endroit où je viens, des formations mineures, hein, que c'est la musique trap. Vous voyez, c'est la musique post-rap, hein, le trap. Donc ce projet va être créé au Festival Danse Fabrique en mars prochain. Ça, c'est un des gros projets. J'ai aussi une résidence au Conservatoire de Rennes pour les prochains 3 ans qui a commencé. Voilà, parmi d'autres projets.
Et l'ensemble sillage, les grandes orientations à venir.
Alors, on a un très beau projet de théâtre musical en collaboration avec l'Opéra de Rennes qui s'appelle Squeak Boom. C'est un projet avec Philly Day, un grand compositeur, et Robotier, aussi un ancien ami de la maison de sillage, qui ont réuni ces deux générations dans un projet très drôle, très humoristique. On a un projet avec BD. Une petite surprise, je dis que le nom de Françoise Keuten, qui,
d'accord,
pour les amateurs de BD, ça dit quelque chose, hein, parce que c'est un grand, grand, grand dessinateur, parmi d'autres projets, bien sûr.
Tous nos voeux vous accompagnent pour cette belle fête de la création contemporaine que vous préparez à Brest, la 10e année du Festival Électrocution. C'est cette semaine, du 28 au 30 mars. Merci à vous, Gonzalo Bustos.
Merci beaucoup, Karine. Thank you.
Le carrefour de la création se referme ce soir avec Temps de terre, une œuvre pour caronne et électronique de 2018, interprétée par Gabriel Vlatchev. Une musique pleine de vie, celle de notre invité, Gonzalo Bustos, compositeur, chef d'orchestre et directeur artistique de l'ensemble Sillage, à l'honneur ce soir sur France Musique et à Brest cette semaine pour la 10e année du festival Électrocution. Merci à lui de sa venue en studio ce soir pour ce carrefour de la création, réalisé par Céline Parfenoff, avec Benjamin Vignal au son et au mixage, Aude Vassan aux archives de l'INA, avec la collaboration de Colline Redon. Bonne continuation de soirée à vous et bonne découverte sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.